The new Vauxhall Combo Cargo delivers for the heavy lifters with its payload of up to a ton, for the fuel savers with its highly efficient engines, and it delivers awards, including International Van of the Year 2019. New Combo Cargo carries British business from 168 a month with 6 years 0% APR. Vauxhall, British brand since 1903. Conditional sale, minimum 18% deposit plus VAT at 20% on total price. Financed by Vauxhall Finance, subject to status. 18 plus, small business users only. T's and C's apply. Search combo offer.
RMC. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit avec Damien Perrinel, avec François Manardon, on va parler de la CAN dont on a beaucoup parlé ces deux derniers jours, bien sûr avec les cartes finales, on connaît les affiches des huitièmes, bien sûr le 32-16 est ouvert, supporters du foot africain, parce qu'après tout, même si vous faites partie des supporters des équipes non qualifiées, on va faire un petit bilan de ces cartes finales, on va se projeter vers les demi, parler évidemment des affiches, des révélations, des surprises. On aura dans quelques minutes avec nous Sébastien De Sabre, qui pendant la CAN était le sélectionneur de l'Ouganda, qui a fait un beau parcours quand même avec l'Ouganda, qui est une nation qui revenait au plus haut niveau là, à la CAN. Il sera avec nous tout à l'heure, mais là tout de suite on a un champion d'Afrique, on a un vainqueur de la CAN. Bah ouais.
Oui, c'est vrai.
Bah oui, Pierre Lechantre avec nous.
Un certain temps, mais vainqueur.
Ancien sélectionneur, notamment du Cameroun, et c'est là que vous aviez gagné la CAN avec,
exactement.
Avec le Cameroun.
Dans les 2000. Donc,
voilà.
C'était une.
Bon, en même temps, il y avait Eto'o, Boma en attaque.
Oui, j'ai eu une équipe magique. J'ai eu une équipe magique.
Rigobert Song.
Je dois dire que j'ai eu.
Avec qui Achille Emana.
Marco Fouet, Liam. Jérémy Njitap. Quand je faisais ma sélection, il fallait que je tape du côté du Real, de Liverpool, de Manchester, de Naples. Donc c'était quand même des joueurs qui étaient.
C'est justement le constat qu'on faisait un peu plus tôt dans l'émission, enfin des émissions d'avant, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus de grosses têtes d'affiche dans le foot africain, comme on a pu voir les Drogba, les Yaya Touré.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ce qui fait que le niveau peut-être peut individuel peut baisser.
Oui, il y a aussi le CHAN, hein, cette Coupe d'Afrique des locaux. Donc, il y a une émulation qui se crée par cette nouvelle compétition. Et c'est pas plus mal parce qu'on retrouve des bons joueurs locaux qui méritent peut-être d'être sélectionnés. Mais bon, quand on a une abondance de biens comme moi j'ai eu, avec que des joueurs qui étaient partis à l'étranger et qui faisaient le festival à l'étranger, j'avais pas trop de soucis. Quand je mettais trois joueurs locaux, on me disait,
au Cameroun, les joueurs locaux, il n'y en a pas souvent.
Le Cameroun, c'est le Cameroun. On disait combien ils t'ont payé pour que tu les prennes. Je ne vous explique pas comment le Cameroun réagit. Mais c'est vrai que j'avais que des joueurs de haut niveau. Ça, c'est évident. Et puis avoir un petit duo Mboma Eto'o, c'était pas mal quand même. Hein,
Eto'o qui était c'était pas encore le grand Eto'o de l'époque. Il débutait, quoi.
J'ai eu la chance de le voir de plus en plus. Il était en équipe réserve à l'époque quand on avait commencé la CAN. Il n'était pas titulaire, hein. c'était Job, Désiré Job.
Joseph Désiré Job.
Si vous vous souvenez.
Bien sûr, joue à Lens.
Mais Samuel, à l'entraînement, il explosait tout le monde, quoi. Il y a un moment, il fallait le mettre à.
Et puis à l'époque, son boulard passait encore les portes, quoi.
J'ai jamais eu de soucis avec lui.
Jamais
eu de soucis. Non, je suis son papa. Donc, vous savez, au Cameroun, quand on est le papa de quelqu'un, il reste humble avec moi, même s'il pourrait me dire on prend le jet privé, on va faire un tour. Non. Samuel, c'est avec moi, il n'y a aucun souci, donc je ne dirai pas de mal de Samuel.
Très bien. Bon, le but, c'était pas le but, hein.
Mais non, mais c'est vrai que certains peuvent le trouver suffisant, et il l'est de temps en temps.
Mais il paraît qu'il fait la pluie et le beau temps en ce moment, d'ailleurs.
Au Cameroun?
À la Fédé, oui.
Oui, mais attention que ça ne devienne pas trop souvent la pluie, hein.
c'est vrai que ces temps-ci, là, c'est un peu tendu.
Les résultats n'ont pas été extraordinaires. Le choix de Seedorf est en train d'être remis en question.
C'est ça qu'il y avait le duo Seedorf-Libert,
ouais. Ouais. Bon, maintenant, c'est le président de la fédération, c'est Idoum Bombojaya qui a l'affaire en main. Qu'est-ce qu'il va en faire de Seedorf? Il a un contrat de 4 ans, avec un salaire qui est mirobolant. Donc, préparez peut-être la
CAN. Ils ont 90 000 euros à deux. Oui, après, je sais pas comment ils se répartissent le truc, mais
ce qui est pas mal. Hein.
Bah oui, à l'échelle de l'Afrique, oui.
Bon, peut-être que a priori ils vont les garder quand même jusqu'en pour la future CAN, puisqu'elle se déroule au Cameroun, je suppose.
Oui, d'ailleurs, on parlait du CHAN, c'est au Cameroun en janvier.
Oui.
Du coup, est-ce que ça va être eux qui vont s'en occuper pour l'instant, on ne sait pas. D'ailleurs, il y a eu une scène assez étonnante qu'on a vue en ralenti et passer en boucle, où tu voyais Kluivert et Seedorf qui discutaient vraisemblablement d'un changement, et tu voyais qu'en fait, ils ne se comprenaient pas. Kluivert, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes Donc, c'était un peu bizarre. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là en plein match.
Ou alors, ils attendaient le signe de Eto'o dans les tribunes pour leur
le
dire.
SMS. Comme Tapie à l'époque,
avec le Salsa.
Une question par rapport à la chaîne, elle passe à 24, elle aussi?
Oh, aucune idée.
Je ne sais pas. Ça, c'est
intéressant. Quand on va parler de la CAN aussi, c'est du plateau de cette année.
Ah, mais ça, c'est une compétition qui est magique. Ça, pour l'Afrique, c'est extraordinaire. Bien sûr. Pour trouver des talents, le nombre de talents qui végètent dans les petits clubs.
Parce que donc là, c'est réservé pour ceux qui n'ont pas tout compris. C'est réservé aux joueurs qui jouent dans les championnats locaux. Donc, l'équipe du Cameroun, par exemple.
Exclusivement.
C'est que les mecs qui jouent au Cameroun. En Afrique, parce que ça peut être un Camerounais qui joue.
Il y a l'Espérance, par exemple.
Par exemple, voilà.
Non, il faut à tout prix qu'ils jouent sur le continent, enfin sur le pays, dans le pays.
Voilà. Est-ce qu'il est pas... Je suis pas sûr que ce soit forcément dans le pays.
Le continent africain.
Je crois que c'est sur le continent. Hein.
Le continent africain.
On va se le faire confirmer, je vais regarder. Mais...
Vous avez des sélections où, malgré tout, y a les championnats locaux sont trop peu développés et ils vont jouer dans le Maghreb. Pour avoir des clubs africains de renom.
Ce qui n'est pas inintéressant, c'est qu'il va y avoir l'émergence de petits pays qui n'ont pratiquement pas de joueurs qui jouent à l'étranger et qui vont réussir à former une équipe qui va être sympa et qui va... on parlera de la Tanzanie, par exemple. Hein. Ouais. La Tanzanie, c'est il y a quoi ? Il y a 80% de locaux. Hein, ils ont quand même réussi à se qualifier pour la CAN. Hein, et il y en a d'autres, des pays. La Libye, c'est pas mal aussi au niveau de. Ils ont gagné, je crois, le CHAN il y a 4 ans,
exact.
Je crois. Non, il y a. C'est intéressant. Pour le football africain, c'est intéressant.
Oui, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a très peu de recruteurs qui sont allés à la CAN cette année. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas. Tu vas découvrir qui à la CAN, au fond. On connaît déjà à peu près.
En plateau à 24, c'est
on connaît déjà à peu près tous les joueurs.
Enfin. Parce qu'il y a des sélections qui sont arrivées.
Non,
pour la première fois.
Aller au CHAN ou à la CAN, U20, par exemple. Là, ça me semble logique.
U17.
C'est que des recruteurs.
Je pense que le U17. J'ai eu la chance de couvrir la compétition U17 en Tanzanie, puisqu'elle se déroulait en Tanzanie. Les recruteurs étaient vraiment.
Ah oui, vous entraîniez là-bas un club, c'est ça?
Oui, j'étais entraîneur de Simba Club, oui, de Tanzanie. Et là, il y avait vraiment dans les tribunes un paquet de recruteurs et ça parlait dans toutes les langues, hein, italien, espagnol. Et c'était là où il fallait être, hein, quand même, hein, parce qu'il y avait.
Voilà.
Il y avait de la bonne qualité. Hein.
Mais Gilbert, par rapport à ce que tu disais sur cette CAN-là qui est la première à 24, là, non, en revanche. Tu connais pas tous les joueurs, avec la Mauritanie qui vient pour la première fois, Madagascar qui vient pour la première fois. Quel autre
Les Malgaches, ils viennent tous de France.
Le Burundi. Non, mais tu peux découvrir peut-être des joueurs.
Oui, mais c'est à la marge quand même, quoi.
Ça s'est multiplié.
Oui, il y a toujours une pépite quelque part. Hein. Le Burundi, avec les U17, il fallait savoir qui joue au football, parce que vraiment, c'était une équipe qui était hyper faible. Mais bizarrement, il y avait un numéro 10 qui avait quelque chose. Et c'est la qualité d'un recruteur, de voir le gars est éventuellement capable d'amener quelque chose à un haut niveau.
Alors, le niveau général, Pierre, là, de cette CAN, quel est votre avis Pas mal, bof.
On en a parlé un peu en débutant notre conversation. C'est que il manque quand même des grands buteurs qu'on a pu avoir les années précédentes. Ça, c'est ensuite.
Est-ce qu'ils n'étaient pas rincés aussi, ces grands buteurs? Parce que ils sont.
La première CAN en juin, tu veux dire, t'arrives en fin de saison, alors que.
Ouais, c'est quand même le calendrier pour ces buteurs africains qui.
Non, mais rincé, il faut m'en citer. Alors, parce que vraiment, moi, je vois plus les grands buteurs des années précédentes, quoi. Il n'y a pas. Bon, déjà, dans le football.
Déjà, quand tu vois que là, non, mais regarde, il y a déjà les chiffres. T'es en demi-finale, le meilleur buteur de la CAN aujourd'hui, il a combien de buts? 3. Enfin, ils sont plusieurs à 3 buts.
Bon, peut-être que maintenant le système de jeu veut que les buts soient marqués par des ailiers, par des milieux, par un peu tout le monde. Mais ça nous manque dans cette CAN.
Salah, il a fait il est éliminé donc rapidement, on l'a plus vu.
Ouais. Mané est encore là.
Sadio Mané, pour l'instant il déçoit. Mais Sadio Mané, globalement, même s'il a raté deux pénaux. S'il avait mis ses deux pénaux, peut-être qu'on aurait dit voilà, regardez, il y a Sadio Mané.
Bon. Il y avait un très bon buteur, et je pense qu'on va en parler avec Sébastien, qui est de Sabre, puisque c'était Okwe. Emmanuel Okwe, qui restait à deux buts, je crois, hein, avec l'Ouganda. Ça, c'était un gardien que j'ai eu à Simba Club, comme avant-centre, et c'est un gardien hyper intéressant. Là, je comprends pas. Messieurs les recruteurs, allez jeter un petit coup d'œil, parce que là, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce gamin-là, qui a 28 ans, 27 ans, et qui est prêt.
Dans des clubs comme Simba Club, c'est un gros club tanzanien.
Oui.
Bon, dans des clubs comme ça, je veux pas comparer avec les clubs du Maghreb, parce que par exemple, les clubs tunisiens sont sans doute les plus riches. Ouais. Avec les clubs égyptiens, on peut le voir comme ça à peu près, peut-être le WAC aussi ou le Raja. Bon, ouais. Dans les clubs, tanzaniens, peut-être sud-africains. C'est quoi le salaire moyen d'un joueur?
Oh, ça doit tourner pour le meilleur aux alentours de 10 000 dollars.
Donc c'est le salaire de Ligue 2 en français, quoi,
ouais,
en fait.
Ouais, à peu près ça.
Attends, dans ces pays-là, donc tu fais bien abstraction des clubs que tu as cités, des clubs maghrébins.
Oui, où il y a plus d'argent.
C'est pas comparable.
J'ai dit quand ils sont payés, parce qu'on sait que...
Le club africain a fait des folies il y a un an ou deux, avec des joueurs à 40, 50 000 dollars.
Ah oui.
Il a fait des folies. Hein,
donc dans des clubs comme Simba Club, il y a un joueur qui peut prendre 10 000 dollars, c'est ça?
Ah, Damien, t'as arrêté
en fait,
ou tu veux?
Non, c'est pas. Mais en fait,
ouais. c'est le grand maximum. Puis avec des primes de match de 100 à 200 dollars par match, quoi.
D'accord.
Mais le Simba Club est déjà un club qui est assez riche quand même, hein, avec un homme d'affaires richissime qui quand il faut mettre la main au porte-monnaie, il le met.
Il y a le tout puissant aussi. Pas en Tanzanie.
Oui, en Mozambique, il y a quand même.
Non, mais les clubs sud-africains ont un potentiel.
Les clubs sud-africains, oui.
Par exemple, Onyango, le gardien de l'Ouganda, là, on en reparlera. Moi, je trouve que c'est un excellent gardien. Il joue en Afrique du Sud.
Orlando Pirates.
Il pourrait jouer en Europe. Non, il joue à Nozambique.
Desert Shift, non?
Non, je vais retrouver ça. Mais c'est un type, il a largement sa place en Europe. Enfin, pour moi, je. Ouais.
Quand tu parles de l'Europe, tu penses à quel pays exactement? Parce que il y a.
Il joue au Mamelodi Sundowns.
Ouais.
Voilà. Mamelodi Sundowns.
L'Europe de l'Est, ça peut être des contrats intéressants, mais il faut bien regarder où on signe. Après, il y a l'Europe telle que peut-être nous, Français, on la conçoit, où on pense que là, effectivement, il y a une surface financière qui est très très intéressante pour ces joueurs. Oui, enfin, quand tu dis l'Europe, c'est très très large.
C'est ça, hein, si tu vas jouer en Bulgarie, en Roumanie...
On trouve à Chypre...
Oui, mais t'es peut-être moins bien accueilli qu'en Afrique du Sud, au fond, va savoir.
Ah mais c'est ce que je veux dire, en termes de salaire, parfois, c'est pas plus intéressant d'aller là-bas. Hein.
Sauf... Oui, pas plus intéressant, sauf quand tu es dans des clubs comme... Alors, le club africain le paye durement. Hein,
oui, parce que...
L'Espérance... Alors oui, on va citer le club... l'Étoile du Sahel, ou bien le Raja, et puis les deux grands égyptiens, Zamalek ou Ali. Des fois, t'as pas envie d'aller voir en Europe si l'herbe est plus verte. Hein.
Oui, c'était particulièrement le problème que j'ai rencontré quand j'étais entraîneur de Ali, de Etihad, de Tripoli. Il y avait de très bons joueurs en Libye. Les gars voulaient pas partir. Ils étaient bien chez eux, ils avaient des petites enveloppes à droite à gauche de supporters parce que c'est un système comme ça qui se... Et c'était comme ça. Et la Tanzanie, pareil, le joueur tanzanien n'a pas envie de partir à l'étranger, d'abord parce qu'il ne parle pas l'anglais, enfin il parle très mal l'anglais, oui, il parle le Swahili, hein, et puis pour se faire comprendre, j'avais mon bon arrière-droit qui était parti à Cannes et qui est revenu au bout de 2 mois parce qu'il ne s'est pas adapté. Ça aussi, il y a l'adaptation du joueur.
Hein.
Mais comment est-ce que vous avez atterri en Libye?
Parce que je suis un grand voyageur et j'ai eu l'opportunité d'entraîner la Libye, mais d'une façon un peu spéciale, c'est que je n'allais pas en Libye. C'est la première fois qu'un entraîneur a pu faire ça. Au lieu d'aller entraîner la Libye, c'est la Libye qui venait à moi. C'est-à-dire que j'entraînais l'équipe libyenne en Tunisie à Tunis.
Ah oui, parce qu'il y avait déjà les problèmes libyens à ce moment-là.
Donc les gars étaient systématiquement, l'équipe était systématiquement en stage.
Délocalisé en fait.
En stage à Tunis. Et on avait à préparer que la Champions League africaine.
Et vous...
Il n'y avait pas de championnat local.
Non, le championnat était arrêté complètement.
Oui, donc j'allais vous dire, où est-ce que vous jouiez vos matchs à domicile? Vous les jouiez à Tunis?
On les jouait à Tunis, oui.
D'accord. Au stade olympique?
Oui, bien sûr, avec 30 000 personnes, parce qu'il y avait tous les Libyens qui passaient la frontière et qui venaient voir un peu. Non, c'est
une étonnante histoire.
La frontière, elle est bien au sud. Hein.
Ils ont peur de rien.
560, 580
km. Ah non, ils ont peur de rien.
Ouais, presque 600 même.
Ah ben là, faut avoir le feu de l'entraîneur.
Ça. Ça, c'est extraordinaire parce que quand même. Non mais quand tu passes la frontière libano-tunisienne, tu remontes vers Zarziz, Djerba.
Oui, mais après il y a l'autoroute.
Il faut. Oui. L'autoroute jusqu'à Tunis. Enfin, moi, il m'est arrivé de le faire. C'est long.
Je peux vous dire qu'ils étaient là, parce que quand on s'est fait sortir en huitième de finale, ils étaient là. Hein, ils ont failli me couper la tête. Hein, donc je m'en souviens.
Et non, mais il y a des péages, puisque tu connais l'autoroute là.
Oui.
Très bien. Bon, bah tiens, puisqu'on parle de la Tunisie, on va y rester. On a Siras avec nous, qui est supporter tunisien. Salut Siras.
Ouais, salut Gilbert.
Salut Siras.
Tunisie-Sénégal en demi-finale. Est-ce que tu es confiant?
Non, pas du tout.
Ah bon?
Oh, c'est pas un Tunisien supporter, ça. C'est rare.
Non, c'est pas une question de supporter. C'est une question de connaître un peu le foot, de connaître aussi un peu les coulisses de ce qui se passe dans l'équipe nationale, d'être un peu objectif et de connaître aussi les forces et les faiblesses de la Tunisie. En l'occurrence, plus les faiblesses. Parce qu'en fait, on arrive en demi-finale. Alors, je suis confiant en tant que supporter. Je soutiens à 200% à la sélection. Ouais. Attention, il ne faut pas se méprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je soutiens et oui, on stresse avant les matchs, comme avant chaque match de la Tunisie. Mais on n'y va pas non plus avec un grand sourire et une grande confiance, parce qu'on n'a pas engrangé cette confiance depuis le début du tournoi. À savoir que donc, on avait un schéma pendant les trois matchs de préparation. Les trois victoires qu'on fait donc juste avant le début de la compétition, on arrive en compète avec un schéma différent et en cours de compétition on change encore une fois de schéma, qui fait que on change encore une fois de schéma, on passe avec une pointe.
Ouais, mais Siras, c'est la première fois depuis 2004 que la Tunisie est en demi-finale.
Ouais.
Alors, remarque, c'est les débats qu'on a eu avec l'équipe de France. Soit on se dit, bon, ok, on est en demi-finale, le jeu est nul, mais on est en demi-finale. Toi, en gros, tu voudrais que ce soit flamboyant et être en plus en demi-finale.
Non, absolument pas. Que ce soit flamboyant, de toute manière, ça colle pas avec l'identité du jeu de la Tunisie sur les 10 dernières années. On cherche absolument pas à être flamboyant. On cherche uniquement, en fait, à ce qu'il y ait une cohérence. Dans le jeu, on sait ce qui se passe un peu dans les au sein d'effectifs. On sait par exemple que Giresse il a absolument pas la main sur l'équipe. On le sait. Il n'y a pas besoin d'avoir des amis au sein du groupe, etc. On le sait très bien qu'il n'a pas du tout la main sur l'équipe.
Il n'a pas la main sur l'équipe.
C'est celui qui n'a pas la main sur l'équipe qui a mis Kazri sur le banc contre.
Voilà, ou qui a fait le changement de gardien avant la séance de tir au but.
Alors, pour le cas Kazri, je suis un peu aussi sur les médias tunisiens. Kazri, il n'était pas non plus à 100% physiquement. Donc, il y a peut-être aussi ça. Il met Kazri sur le banc. Faut savoir que après ce sont des. Je dis pas que c'est ça qui est bien ou qui est pas bien. Ok, on le sait que Giresse n'a pas la main sur l'équipe. On le sait que Kazri. Mais je veux dire, c'est... Ok, c'est moi qui le dis. Moi, je peux dévoiler des sources. On s'en fout, c'est pas ça le problème. D'accord.
Mais tiens, il sera avec nous demain soir dans l'after d'ailleurs, Alain Giresse. On lui passe un petit coup de fil là. Il nous a promis de nous répondre. Donc.
Non, mais ce qui est surprenant, c'est que depuis le début, quand on parle de la Tunisie, on parle obligatoirement de Giresse.
Il s'est massacré
par tout le monde. Après, il y a certainement du vrai, certainement du faux dans ce que tu as pu entendre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le coach est là, c'est qu'il a mis en place une équipe qui prend pas beaucoup de buts, qui est en demi-finale. D'une CAN, ça vous était pas arrivé depuis longtemps, et je peux comprendre qu'il y a une certaine frustration au niveau du jeu parce que c'est vraiment pas flamboyant, mais les résultats sont là aujourd'hui. On peut avoir cette impression de déjà vu parce que Giresse est passé dans des sélections africaines auparavant, mais toujours est-il qu'avec vous les résultats sont là.
Giresse, faut bien savoir quelque chose. S'il est autant critiqué en Tunisie. Ça vient pas de nulle part non plus. Il a été critiqué partout où il est passé. Humainement, il n'y a absolument aucun problème avec lui. Ça, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. C'est un type qui est vraiment adorable et délicieux, qui connaît bien le football en plus. C'est ça le problème. C'est qu'il connaît le foot.
Ah bah oui, c'est un Giresse quand même. Je pense qu'il a une certaine maîtrise du dossier.
Non, mais voilà, c'est juste pour mettre les choses en perspective. Pour pas passer pour ceux qui critiquent. Enfin, je veux dire, c'est à la Giresse que c'est un monument.
Non, mais moi, je vais pas forcément le défendre. En fait, dès qu'on a un supporter. Depuis le début de la CAN, Siras, dès qu'on a un supporter tunisien.
C'est une raison quand même.
Yannick, il tue Giresse.
T'as Giresse.
C'est quand même, c'est dingue, ça, non? Ouais. Et mais tu te serais fait éliminer au premier tour en prenant 3-0, 2-0, 3-0. Je sais pas, je dirais, ah bon, peut-être qu'effectivement, il y a aussi une responsabilité du coach, mais là...
Mais c'est comme avec le Sénégal, on critique Aliou Cissé à tout va, alors que c'est quelqu'un qui est en demi-finale de la CAN et qui potentiellement peut gagner cette CAN. Mais on va critiquer encore ce sélectionneur. C'est ça qui est assez paradoxal, je trouve, aujourd'hui, en Afrique en tout cas.
C'est les poètes hein, qui critiquent, hein. C'est beaucoup les poètes. Voilà, hein. Ils s'imaginent que ça doit jouer de manière.
J'aimerais quand même que Pierre témoigne, parce que c'est
faut une sélection, c'est compliqué.
C'est une particularité, ça, de l'Afrique. C'est que, bon, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que c'est soit l'amour absolu, soit tu peux te faire découper en rondelles dans les médias, par les supporters. C'est dur.
Ouais, c'est-à-dire que la presse est très véhémente, quoi, elle est très méchante. Hein. C'est vrai que ce qui se dit de Giresse depuis le début, c'est. Mais moi, je souhaite de voir la Tunisie en finale. Et après, je voudrais voir un petit peu ces journalistes qui l'ont taillé dans tous les sens et qui viennent le voir pour avoir des interviews. Et là, je pense que Giresse pourra leur dire, mais monsieur, vous voulez me parler à moi alors que normalement, vous me dites que je suis depuis le début incompétent, que c'est pas moi qui fais la composition d'équipe, que ce sont mes adjoints tunisiens qui connaissent mieux l'équipe que moi. Non, il y a un moment où il faut quand même arrêter. Monsieur, c'est monsieur Giresse, c'est quand même pas n'importe qui quand même, quand vous prenez quelqu'un, s'il vous plaît. Bien,
alors attends, on reprendra Siras un peu plus tard, mais on a Sébastien Desabres avec nous comme promis, qui est avec nous dans l'after. Sébastien, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Bon,
bonsoir.
Alors, je vous fais le plateau, hein. Donc, il y a Pierre Lechantre, qui était le papa de Samuel Eto'o.
Ouais,
un petit peu le papa des autres coachs français en Afrique, quelque part.
Le papa d'Emmanuel Okoué aussi.
Emmanuel Okoué.
Damien Périnel et François Manardo. Alors, on est ravis de vous avoir parce que vous avez vécu une CAN étonnante, et puis réussie, on peut le dire. C'est réussi d'être allé en huitième de finale avec l'Ouganda.
Ouais, on a fait. Bon, c'était l'objectif de la fédération. Moi, ça fait plus d'un an et demi que j'avais signé la finale avec cette fédération, et puis c'était l'objectif de faire mieux que la dernière CAN en 2017 au Gabon. Et puis, ouais, c'est vrai qu'on a gagné le premier match après 41 ans d'attente. C'était contre le Congo, et puis après, bon, voilà, on s'est fait éliminer en huitième de finale. On est tombé contre une équipe sénégalaise, comme vous avez dit, qui est pas forcément flamboyante, mais qui a des individualités, qui a une organisation de jeu, et puis qui avait plus de qualité que nous.
Alors, on vous connaît pas beaucoup en France, parce que finalement, depuis que vous êtes coach au plus haut niveau, vous avez fait toute votre carrière en Afrique.
Ouais, ça fait 9 ans, ça va faire la 10e année. Je vais attaquer la 10e année, effectivement. Ouais, j'entraînais en CFA2 au Canet-Rocheville, et puis après, j'ai fait un petit tour d'Afrique, on va dire, en passant de par l'Ouest, beaucoup de Maghreb également, l'Est, un petit passage aux Émirats. Et puis voilà. Et puis là, j'ai l'objectif final était de faire la CAN avec une sélection. Donc ça, c'était une très belle expérience. Et puis comme vous le savez peut-être, je vais repartir avec un club
d'Égypte
rapidement.
Voilà, c'est Pyramide.
Avec le Pyramide FC. Ouais.
Mais c'est un club émergent, coach.
Ouais, ben c'est un club en fait qui a été racheté l'année dernière par un riche milliardaire saoudien qui a racheté un club qui était en première division qui s'appelait Asyuti. Donc ils ont changé le nom. Ils ont c'est un projet un peu à la PSG de l'époque de l'arrivée du Qatar où ils ont beaucoup d'ambition sur l'Égypte. Donc ils ont fait une première année avec cette propriétaire, et puis le propriétaire a vendu aux Émirats le club, et puis ils ont remis un projet, donc ils avaient terminé troisième, et puis voilà, l'objectif qui m'a été proposé, c'est de pouvoir faire grandir le club, et ce que j'ai accepté, donc je vais commencer la semaine prochaine.
Est-ce qu'il y a un profil pour entraîner en Afrique, ou est-ce qu'on est vissé à l'Afrique, enfin, Pierre, finalement
malheureusement être entraîneur en Afrique ou au Moyen-Orient, après quand on a envie, moi c'était le rêve de mon papa qui me disait j'aimerais bien que tu entraînes un club en France, un bon club de première division ou de deuxième division. Malheureusement, j'ai jamais eu la possibilité. Et il y a encore peut-être.
D'accord, en France, on dit Pierre Lechantre, il dit c'est qui ? Alors, de toute façon, lui, il est fait pour l'Afrique, c'est ça ?
Il y a 7-8 ans, même, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de me proposer dans un club de national. Et puis, le président m'a dit, mais qui vous êtes, vous ? Donc, même pas la peine d'assister. On a une.
Monsieur, j'ai gagné la CAN.
On a une étiquette.
C'est quoi la CAN ?
Mais la CAN, ça ne dit pas grand-chose aux gens, je pense.
Oh, quand même.
Je sais pas, j'ai pas l'impression.
Quand même, d'autant qu'on fait une Coupe des Confédérations quand on gagne une CAN.
Oui, mais ils pensent peut-être qu'on est des entraîneurs sous-évalués parce qu'on entraîne l'Afrique, je ne sais pas.
Alors, mais Sébastien de Sable, vous êtes d'accord avec Pierre ?
Non, parfois, je sais pas. En tout cas, nous,
tu vas voir, moi, d'ici 4-5 ans, quand tu vas revenir en France.
En termes d'émotion, en termes de qualité de joueur, de qualité d'entraînement, de passion, aujourd'hui, quand vous entraînez Louis Dat, quand vous entraînez les grands clubs et que vous jouez devant 80 000 spectateurs, vous avez la chance de faire des gros matchs.
T'as pas envie de revenir en national,
c'est évident, on trouve du plaisir.
On aurait du mal, effectivement, sur les 9 dernières années à vivre la même chose en France ou en Europe. Donc voilà, on continue notre parcours et puis après on verra. Après, c'est sûr, c'est toujours à un moment donné, voilà, le souhait de pouvoir essayer et se confronter, voilà, au monde professionnel en France parce qu'on l'a connu, parce qu'on l'a suivi gamin, et voilà. Après,
vous avez déjà eu des offres en France?
Ouais, il y a déjà eu des choses avec des clubs de Ligue 2, mais après c'est pareil, les gens ont du mal à se rendre compte aussi de ce qu'on peut vivre nous en Afrique, que ça soit sur le plan footballistique, mais sur le plan financier également. Et donc il y a différents éléments qui rentrent en compte, et puis voilà, moi c'est quelque chose que j'ai dans la coin de ma tête.
Bah, moi je peux comprendre. Hein. Si t'es bien traité, t'es bien payé dans un grand club africain. Pourquoi est-ce que tu irais dans un mauvais club de Ligue 2? Non, mais je veux dire,
il y a quand même beaucoup d'exemples. Hein. Combien il y en a des entraîneurs qui ont voulu revenir en France et qui n'y sont pas arrivés. Et des noms.
Ou à l'inverse, hein, il y a beaucoup aujourd'hui, pour connaître bien les réseaux, il y a beaucoup d'entraîneurs de Ligue 2, de Ligue 1 qui essayent de s'expatrier sur le continent africain.
C'est vrai.
Sébastien de Sabre, on se quitte quelques petits instants pour une petite pub et on revient, on continuera la discussion ensemble. On est ravis de vous avoir, donc on revient très vite, 22h27, l'after est de retour dans quelques secondes.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Tout à l'heure, on ira à Lyon, je le rappelle, dans l'after après 23h pour reparler Mercato. Mais pour l'instant, nous sommes sur la Coupe d'Afrique. On est avec Pierre Lechantre, avec Sébastien De Sabre, donc, qui était avec l'Ouganda à la Coupe d'Afrique et qui va donc devenir entraîneur du FC Pyramids en Égypte dans les jours ou les semaines qui viennent. On discute évidemment de cette CAN. Sébastien, encore un mot sur l'Ouganda, parce qu'on a cité quelques joueurs. Alors, Okwi, donc, que Pierre a entraîné à Simba en Tanzanie, que vous avez eu la CAN là.
Pour lequel, d'ailleurs, Sébastien m'a bien aidé, parce que il gérait ses déplacements d'avion, parce que faire revenir un joueur d'Ouganda après une sélection, en général, il revient 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours plus tard. Donc, avec Sébastien, on s'était bien débrouillé.
Il y en avait deux, il y avait Djoko et Okwi de mémoire. Djoko, c'est un peu plus difficile, mais...
on s'était bien débrouillé.
Parlez-nous un peu de votre gardien, là, enfin, votre ex-gardien Onyango. Moi, j'ai vu les matchs. Tout à l'heure, je disais, ce type-là pourrait jouer en Europe.
C'est pas une surprise. Il était élu dans l'équipe type de la CAF, hein, cette année. Et puis, ça fait de nombreuses années que c'est un des meilleurs gardiens d'Afrique, voire le meilleur gardien d'Afrique. Alors bon, il a un profil où il s'est installé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, je vous écoutais en termes de salaire. Voilà, il a un salaire en Afrique du Sud qui équivaut à des salaires de Ligue 1. Donc, il a sa famille. Pour lui, là, il a re-signé 4 ans à 34 ans dans ce club. Donc, c'est un capitaine. Ça fait plus de 15 ans qu'il est en équipe nationale. Et je peux vous dire, c'est un exemple de discipline. Et c'est vraiment un super gars et un super joueur.
Est-ce qu'il y a des joueurs, notamment dans l'équipe d'Ouganda, qui sont des petites pépites qu'on pourrait retrouver par exemple en Ligue 1 ou ailleurs?
Il va se les garder pour Pyramide.
Non, mais il y avait, ils ont été beaucoup sollicités. Il y avait aussi le choix de certains joueurs comme Emma Okwi, de faire le choix d'être en fin de contrat sur la CAN. Donc lui, voilà, on va avoir 5, 6, voire 7 joueurs qui vont être aspirés par par les clubs, alors souvent des clubs effectivement saoudiens ou sud-africains ou du Maghreb. Après, on a Farouk Mia qui est en contrat au Standard de Liège, qui est retour de près de la Croatie, qui est notre numéro 10, qui lui, voilà, a une capacité sans doute à aller dans un club de Ligue 1. Et puis voilà. Après, on est plus dans des profils, on va dire du championnat, des championnats peut-être pas forcément top européen. Mais j'en ai quelques-uns qui jouent en Suède, qui jouent au Danemark. J'avais quelques joueurs qui jouent en Suède et au Danemark. Et ouais, ça va bouger. Après, on avait un petit jeune Lumala, oui, le numéro 22. Je sais pas si vous avez suivi bien suivi nos matchs, mais qui est très intéressant. Et je sais qu'il a été approché par des clubs de Ligue 2 en France.
Ah bon, bah voilà, comme quoi la France regarde quand même l'Afrique. Un mot sur la CAN que vous avez vécue. Alors moi j'ai eu de la chance, j'étais au stade au match Égypte-Ouganda. Il y avait une ambiance extraordinaire. Bon, les matchs, la sélection égyptienne et tout, plein 3 heures avant. Voilà, vous êtes bien accroché pour craquer. Alors après, à un moment, Salah s'est énervé, donc il a à peu près tout fait tout seul, hein, pour schématiser. Voilà. Enfin, là, c'est sûr que quand on vit ce genre d'ambiance, même quand on est dans le camp d'en face, c'est des soirées extraordinaires.
Ouais, c'est les soirées, mais vous savez, quand on parlait de la Tanzanie, on a été jusqu'à notre dernier match de qualification en Tanzanie, quand la Tanzanie devait se qualifier, il y avait le double de spectateurs, et il y en avait autant à l'extérieur du stade qu'inter. Donc, ça, je veux dire, c'est des ambiances pour les joueurs et pour nous, on va dire, voilà, ça nous surprend plus. Par contre, ce qui est super pour les joueurs, c'est de pouvoir montrer leur capacité sur un match avec cette exposition là contre une super équipe d'Égypte. C'est vrai que on a fait, pour moi je pense qu'on a fait un bon match, et puis après effectivement Salah a mis le coup franc comme Mané nous a éliminé sur une attaque rapide, quoi. Donc ouais, c'est des joueurs de classe mondiale, mais ouais, l'ambiance était fantastique. Mais comme c'est la même dans les matchs de Ligue des Champions d'Al-Ahly, de la Malek ou des gros clubs égyptiens.
Non, mais nous on se rend pas forcément compte, on a nos habitudes voilà, de Ligue 1, quoi, faut dire la vérité. Mais je m'excuse pour Caen et Dijon, mais quand tu passes de Caen-Dijon à une ambiance comme ça, tu t'en prends plein la gueule, quoi. Voilà.
Non, bah, il faut continuer. Okay. Voilà, j'ai la chance de vivre le cinquième plus gros derby du monde avec le Raja Wydad Casablanca. Bon, c'est des animations qui sont toute la journée, un stade qui est incroyable. Hein. C'est fantastique.
Qui va gagner la CAN, selon vous?
Moi, j'avais dit dès le départ le Sénégal. Après, l'Algérie m'a agréablement surpris, parce qu'on savait que les individualités c'était extrêmement fort. Mais c'est une des rares fois où je sens vraiment un collectif aussi fort et très motivé sur le même objectif. Vraiment, il y a un petit grand coup de chapeau à Belmadi, parce que c'est vraiment fort. Et puis après, comme les CAN, souvent, c'est pas l'équipe qu'on attend qui la remporte. La Tunisie, c'est vrai que voilà, Alain, même si mais ça c'est la Tunisie, hein, c'est la Tunisie ou même ça soit l'Algérie, les critiques sont assez faciles, mais c'est un super travail. Et voilà, je les sens bien aussi pouvoir aller par la petite porte. Mais voilà, après. Pour moi, sur ce que j'ai vu, l'Algérie est favori à ce stade-là de la compétition.
Pierre ?
Oui, peut-être l'Algérie. Moi, je vois pas. Je mettrais une petite pièce sur le Nigeria quand même, parce que.
En gros, vous avez cité tout le monde, tous les deux là. Comme
non,
ça.
Non, non, non.
Mais bon, c'est compliqué à ce stade-là, la compétition, c'est compliqué.
Non, mais il y a un truc étonnant quand même, c'est que il y a deux compètes en une. Parce que finalement, ce qu'on a vu au premier tour. On le retrouve pas forcément au deuxième tour. Par exemple, la Côte d'Ivoire, qui était quand même assez plutôt décevante au premier tour. Mmh. Bon, là, ils ont été sortis, mais enfin, tu sentais qu'ils montaient tout de suite en puissance, qu'ils avaient tout de suite différent sur les matchs d'élimination directe. Donc, il y a deux compètes en une.
C'est peut-être le fait qu'il y a des préparations qui sont pas toujours au top. Hein. Peut-être que la Côte d'Ivoire n'a pas eu la préparation voulue. Peut-être que par contre, le Maroc a dû faire une préparation feu de dieu avec Renard. Ils ont fait 3 premiers matchs magiques et après, ils se sont un peu effondrés. On peut pas imaginer l'organisation dans les clubs. L'organisation dans les clubs du Maghreb n'est pas la même que l'organisation dans les clubs de.
Il y a toujours une part d'alchimie comme ça sur un tournoi. peut pas maîtriser. On essaye de maîtriser un maximum de détails, mais on peut pas maîtriser tous les détails. Si on parle de la Tunisie, parce que là, on voit la Tunisie demi-finaliste, alors on se dit oui, les critiques étaient sévères, etc. Moi, je trouve que sur la forme, les critiques étaient très sévères. Maintenant, il faut quand même rappeler une chose, c'est que pour arriver à cette demi-finale, ils ont gagné un match.
Oui, c'est sûr.
Ils ont gagné un match contre une équipe surprise, mais qualifiée aussi d'une manière pas complètement honteuse, de petits poussés de la compétition. Donc, on va dire qu'ils ont battu Madagascar, ils exploitent Madagascar 3-0, mais avant, c'est 4 nuls qui s'enchaînent dans un groupe, d'ailleurs, la Tunisie, avec le Mali, la Mauritanie, et j'oublie la première équipe, voilà, où c'est 3 nuls, où il y a de quoi être déçu. Bon, moi, je suis toujours déçu par les joueurs avant...
Oui,
l'Angola, merci Gilbert.
Oula,
Je suis déçu plus par les joueurs que par l'entraîneur,
Finalement, ce que tu disais, le Bénin va en huitième sans gagner un match, alors que le Maroc perd sans en perdre un. Enfin, est éliminé sans en perdre un. Donc ça, c'est le foot. Hein. Des fois, t'as les
non, mais c'est des compétitions à 24. Non, mais c'est des compétitions à 24 qui sont... finalement, moi, j'étais au départ avec l'Euro 2016 à 24 en me disant « Ouais, c'est pas mal, on voit plus de monde. » Et on voit plus de monde, sauf que t'as des équipes qui attendent 3 jours avant de savoir si elles doivent rentrer au pays ou si elles doivent être qualifiées. Ça, c'est quelque chose qui va... à l'encontre du sport. Et puis, oui, la Tunisie est qualifiée avec 3 points, 3 matchs nuls, elle passe.
Alors on va conclure là-dessus, d'ailleurs. Sébastien Le Sable, la CAN à 24, finalement, c'est bien ou...
Bah, il va dire que c'est bien, je pense.
Non, bien. Bah, ça fait deux qualifiés par groupe dans les phases de qualification. Bah oui. Et puis, je veux dire, on voit que le Zimbabwe ou l'Ouganda ou Madagascar ou le Bénin méritent de faire aussi la CAN.
Ah mais évidemment, je conteste pas
pour
ça.
Pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis après, à la fin, on retrouve, quand on voit les demi-finales, on a pas forcément de surprise entre guillemets. On retrouve les meilleures nations, mais il y a tellement de très bonnes équipes en Afrique que il y en a qui sont éliminées en huitième de finale comme le Maroc. C'est des matchs à élimination directe. C'est toujours difficile.
Mais coach, sur le plateau en général, je reprends ta question finalement. Oui. La qualité de cette CAN, vous la situeriez moyenne, bonne, très bonne, médiocre.
Là, c'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les matchs de qualification, ils sont très difficiles. Donc, alors tout le monde dit effectivement, il y a peut-être un peu moins de spectacles, il y a un peu moins de 5-0, de 6-0, et puis des triplés de certains attaquants. Mais la vérité, c'est que les petites équipes travaillent aussi, qu'il y a un niveau qui se nivelle aussi par le haut. Et que on parlait du Maroc. Le Maroc en match amical a eu du mal sur ses matchs amicaux. C'est le Sénégal nous bat 1-0 même s'il mérite la victoire. Donc y a des matchs qui sont plus serrés, qui sont plus tactiques et puis qui font peut-être un peu moins de spectacle. Et les gens disent que le niveau il est peut-être un peu moins bon, mais moi je trouve qu'au contraire il y a plus d'homogénéité au niveau des équipes et puis ça tire pas forcément le spectacle vers le haut, peut-être en nombre de buts, mais en tout cas en termes de qualité de tactique ça tire vers le haut.
Merci beaucoup Sébastien De Sabre et bon courage avec le FC Pyramids donc
merci à vous
en Égypte.
Bonne chance Sébastien.
À très bientôt.
Au revoir.
À très bientôt sur RMC. On est de retour dans quelques instants. On va continuer la discussion avec Syrah, c'est la conclure. Et puis on va parler de l'Algérie quand même avec Jess qui veut parler de Belmadi. Pierre Le Chantre avec nous encore quelques minutes. Et ensuite, on parlera de Lyon et de son mercato. A tout de suite dans l'after.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Damien Périnet est là, François Ballardot est là et on a Pierre Le Chantre avec nous qui connaît parfaitement le continent africain, mais aussi la France donc vous l'avez entendu sauf que parfois c'est la France, il ne connaît plus on va finir notre discussion avec Syrah qui a patienté, et merci Syrah d'avoir patienté, c'est sympa. On va conclure. Pierre, votre avis sur le boulot de Giresse et ces relations parfois compliquées là qu'on voit avec Syrah entre supporters et sélectionneurs?
Moi je dis déjà que Gigi peut pas faire des miracles. Hein. Il a eu cette équipe peut-être en tout et pour tout 3 semaines en stage. Donc il va pas pouvoir mettre en place un système technique exceptionnel, etc. Moi, la qualité de Giresse, je trouve, c'est d'avoir pris la qualité intrinsèque de chaque joueur et de les utiliser comme tels. C'est-à-dire qu'on laisse le Tunisien dribbler. On sait que le Tunisien est un super dribbleur. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans cette équipe de Tunisie. Peut-être parfois trop. Et ça, c'est intéressant.
C'est un peu trop les pénaux d'ailleurs.
Oui, mais ça, c'est intéressant. Déjà, parce qu'il faut jouer avec les qualités des joueurs qu'on a. Quand on a de la puissance, on peut se prendre l'équipe du Nigeria parce qu'on sait que là on va y aller, mais l'équipe de Tunisie, ce sont des joueurs qui ont la capacité pour éliminer l'adversaire. Et c'est là où je pense qu'ils peuvent peut-être faire quelque chose
contre le Sénégal. J'y reste un pragmatique, Syrah.
Allô?
Oui, tu t'as entendu ce que disait Pierre, donc je dirais que c'est un pragmatique.
Non, je suis tout à fait d'accord, c'est un pragmatique. Je joue avec les qualités de la sélection, je joue avec les qualités des joueurs, mais justement, il s'en est rendu compte en cours du tournoi, parce que jouer avec un faux neuf, avec la sélection qu'on a, c'est juste pas possible. Et il s'en est rendu compte en mettant Kenissi contre ses troisième match, en le mettant en pointe, et ça a apporté tout de suite la profondeur dans le jeu tunisien. Et là, on s'est rendu compte que ça a fait monter le bloc, et que là, on a pu exploiter les capacités des ailiers, etc., qui eux sont des dribbleurs, qui eux sont des provocateurs, des mecs comme Sekni, des mecs comme Sliti, des mecs comme Kazri. Mais jouer avec Kazri en faux neuf, comme il le fait de temps en temps, comme il a fait à Rennes, ou comme il le fait un peu à Saint-Etienne de temps en temps, non, c'est pas du tout du pragmatisme. Alors certes, après, on peut dire qu'elle était pragmatique parce qu'il s'est remis en question en cours de tournoi et qu'il a remis les choses à leur place. Ou alors c'est comme quand on fait un changement gagnant. Est-ce qu'il a été mauvais au début et qu'ensuite il s'est rattrapé de sa bêtise, ou est-ce qu'il a fait du bon changement, il a été pragmatique. Donc à savoir si on prend le verre à moitié vide ou à moitié
plein. Déjà, il est pas têtu.
On va conclure, Damien, vas-y. Avec
J'ai une question pour toi et qui va s'adresser à Pierre aussi. En fait, vous avez, je pense, un déficit d'image parce que vous êtes des sélectionneurs. Vous avez un peu, c'est un peu provoque, hein, ce que je vais dire.
Vas-y.
Mais quelqu'un comme Giresse qui a été donc au Sénégal, c'est ça ?
Sénégal, oui. Mali.
Sénégal, Mali, Gabon.
Vous avez fait plusieurs sélections africaines. Mm-hmm. Et du coup, auprès d'un Tunisien aujourd'hui, il y a peut-être cette image du mercenaire français. Qui a navigué à droite à gauche dans les pays africains, qui dit pourquoi on le prend nous alors que l'autre ça s'est mal passé là-bas, ça s'est mal passé dans tel pays. Donc en gros, vous partez déjà avec un aspect négatif.
C'est évident.
Voilà. Comment vous... Et puis alors après, il y a une nouvelle génération comme l'entraîneur qu'on a eu auparavant, ouais. Qui est un peu plus jeune, mais qui va se faire une carrière
qui africaine. Lui avait fait que des clubs avant d'être avec vous.
Exactement, en Afrique. Mmh. Vous voyez, donc en gros, c'est un peu votre relève, mais l'image que peut avoir Claude Leroy, Alain Giresse, voilà, en gros, vous êtes que sur le continent africain, et entre guillemets, alors, Africains peuvent penser que vous prenez le boulot
des jeunes. En fait, tu veux dire prenez des has-beens, quoi, c'est ça, en un mot, non?
Non, c'est une question provoque, mais
moi, je vais te dire que je suis toujours prêt à partir, ma valise est prête, et je pense que je suis bizarrement meilleur qu'il y a 10 ans. Parce que je connais parfaitement le joueur africain, je connais parfaitement l'entourage, parce que l'entourage est important, hein, dans le foot africain, il faut pas se leurrer, hein. Il y a des choses que un gars qui est tout nouveau, tout beau et qui arrive en Afrique, il connaît pas.
C'est pas le gros de l'année, ouais.
Il sait pas que je vais pas faire de dessin parce qu'après on va encore me dire du côté de Yaoundé, tu as craché non. Donc moi je pense que l'important pour un entraîneur français qui arrive, c'est ne pas vouloir à tout prix imposer un système français, c'est-à-dire un système verrouillé aux Africains. Mm-hmm. Il y a un moment où il faut leur laisser leur capacité d'improvisation. Et ça, c'est le plus important. Et à partir de là, vous pouvez avoir des résultats qui peuvent suivre, mais après je comprends que à chaque fois on dit oui un entraîneur local aurait fait aussi bien. Ben l'entraîneur local pour l'instant il n'était pas en Tunisie et
surtout on lui propose pas non, mais attends, on propose à vous, donc
il y a un truc qu'il faut inverser, je veux dire. Et pourquoi est-ce que les fédés se tournent vers les entraîneurs étrangers ?
C'est la question, c'est
et
ça.
Et pourquoi ils font des tests de temps en temps avec des entraîneurs locaux et qu'au bout de 2 ans ou 1 an, ils arrêtent et reprennent un Français ? C'est que à part peut-être au Sénégal où il y a l'entraîneur a une stature, une aura qui lui permet d'imposer peut-être ses... Mais une petite parenthèse par exemple, la Côte d'Ivoire hier. Vous avez pas remarqué que de temps en temps c'était Aurier qui faisait un peu le patron ? Oui, c'est une chose qui m'a marqué. C'est un entraîneur ivoirien.
Un local, ouais, c'est un ivoirien.
Oui, oui, oui.
Eh bien, moi c'est une chose qui m'a marqué. De temps en temps, je voyais Aurier faire des grands gestes en disant tu fais ça, tu fais
c'est
ça.
C'est le capitaine,
tu fais ça.
Mais qui jouait pas hier. Ouais.
Oui, on est d'accord. Ouais. Mais il s'était substitué carrément presque à l'entraîneur qui était d'un calme absolu et qui bougeait pas d'ailleurs.
Donc vous voulez dire que l'image du sorcier blanc, hein, qui est une image plus africaine qu'européenne, elle a un corps, et moi, pour moi, c'est pas du tout un terme péjoratif, hein, mais elle a un corps de beaux jours devant elle par rapport à ces fédérations qui ont tendance à vouloir s'acheter du crédit en quelque sorte en prenant un Européen qui va apporter une expertise européenne et qui va s'adapter en même temps.
J'en suis persuadé, et encore pour une autre raison, c'est que la formation des éducateurs en Afrique, vous la connaissez ? C'est une catastrophe. Personne ne fait rien pour former des éducateurs. L'éducateur africain qui a envie de venir faire son job, il est obligé de venir en France ou en Europe pour apprendre le boulot. Sinon, les formations d'éducateurs ne se font pas en Afrique.
Formé en France, Aliou Cissé formé en France.
Donc, aussi bon soit-il, il faut quand même avoir un minimum de formation. On est d'accord pour être un entraîneur de qualité.
Pour rebondir là-dessus, donc là, moi, j'ai passé une session d'entraîneur l'année dernière. Et il y avait beaucoup d'Africains qui passaient donc cette formation pour un jour
qui peut-être... Qui reconnu à l'international.
Reconnu exactement à l'international, qui pourrait leur permettre d'intégrer les sélections. C'était le cas avec Kaba Diawara, par exemple, qui est avec la Guinée, et qui aujourd'hui peut exercer...
Il y a un effort qui est fait. Regardez le staff technique du Cameroun, on retrouve pratiquement tous mes anciens, Olembe, Jérémy Njitap, etc., tous les gars qui étaient dans mon équipe. Et ça, c'est très bien, parce que ce sont des joueurs... d'expérience de haut niveau, mais il faut qu'ils passent les diplômes maintenant. De façon, Rigo a beaucoup de mal à s'imposer en tant qu'entraîneur du Cameroun. Rigo Bersang, on lui a donné l'équipe B et on veut pas encore et on n'a pas voulu lui donner l'équipe A. Hein. Donc c'est un problème africain, mais la formation des éducateurs c'est un problème.
Siras, merci à toi en tout cas.
Gilbert, juste un dernier mot.
Vas-y.
Pour le match du dimanche 18h, si t'as besoin d'un supporter tunisien en studio.
Non mais tu peux venir le soir, tu viens après le match. Viens après le match.
C'est bon, je me cale ou pas ?
Voilà, t'inquiète pas, on va te caler ça.
Hey, Rouya, il s'est bien vendu. Hein,
non, D'ailleurs, on a fait un super plateau avec tout le monde. On refait dimanche. À dimanche, Siras. Cool.
À dimanche, Gilbert. Merci. Bonsoir à tous.
Tiens, on va conclure avec Jess qui voulait parler de Belmadi. Salut, Jess.
Salut, Gilbert.
Ça va ?
Salut tout le monde.
Bon, Jess. Salut.
Au revoir, impeccable.
Donc, Belmadi, c'est le nouveau héros de l'Algérie. Hein.
Bah écoute, moi je suis pas supporter de l'Algérie parce que je suis pas algérien, mais j'aime bien les entraîneurs qui bombent pas trop du torse, qui sont humbles et qui travaillent. Mm-hmm. Donc je suis moi-même entraîneur dans le football amateur, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Franchement, Belmadi dégage quelque chose de fort, moi je trouve. Je regarde un petit peu ses conférences de presse et tout, il en fait jamais trop, il parle football. Il a su fédérer un groupe de joueurs où il y a beaucoup d'individualité quand même. Quand on regarde le banc de touche avec Yacine Brahimi qui joue pas et tout. Si on fait une petite comparaison avec le Maroc, je pense que l'Algérie a plus de profondeur de banc en qualité.
Ouais.
Donc ce qui leur a permis aussi de franchir les étapes. Il a réussi au troisième match, vu qu'il était déjà qualifié, à faire souffler pratiquement tout le monde et à faire jouer, comme on dit, les coiffeurs. Donc franchement, il a une gestion de groupe qui est très très intéressante. Après, c'est sur 3-4 semaines, c'est sur un tournoi. Il faudra voir à l'avenir, puisque je pense qu'il fera pas non plus 20 ans à la tête de la sélection, mais je pense qu'il a déjà réussi sa CAN et qu'il a déjà mis son empreinte sur le football algérien, moi je trouve. Et c'est une équipe qui joue au ballon, qui court, enfin court. C'est quand on voit Feghouli replacer en milieu relayeur, qui court énormément, donc ils font des efforts. C'est une équipe qui est plaisante à voir jouer, vraiment. C'est beau, quoi.
Ouais, il y a eu quelques révélations, par exemple Belaïli qui fait beaucoup. Super CAN.
Benacer.
Benacer aussi. Non, il y a.
Je suis assez d'accord et on voit en plus qu'il y a une osmose entre l'entraîneur et les joueurs et ça c'est quand même le plus important. Mm. Si vous voulez qu'un joueur se batte sur le terrain, il faut qu'il se batte pour vous. Si il a pas envie, vous êtes foutu.
Exactement. Et même quand il joue parfois avec un peu comme c'est passé avec Mourinho. Parfois il y avait des joueurs qui jouaient contre l'entraîneur pour.
Mais bien sûr. Alors que là on voit qu'il sort un joueur, le gars il vient de l'embrasser. Comme du bon pain, on voit que il y a l'osmose et
pas que les titulaires.
C'est 80% du boulot.
Mais bien sûr.
Mais c'est
le boulot le plus difficile.
Nous, on se gargarise pour regarder un mot poli avec les schémas, la tactique, la mise en place. Si le joueur il a pas envie, si les joueurs ils adhèrent pas, ils sont pas galvanisés, ils sont pas des fois un peu bousculés.
C'est pas le BEF qu'il faut, c'est le BAFA.
Je sais pas, il faut.
Non, mais coach, sérieusement, oui. Si, enfin, et vous avez été joueurs tous les deux. Si à un moment donné, il n'y a pas un discours aussi entraînant, alors attention, hein, il y a des charlatans aussi. Mais s'il n'y a pas un discours entraînant avec un système auquel les joueurs adhèrent parce qu'ils s'y sentent bien,
bien
aussi,
sûr. Bien
mais un coach, il doit te faire vibrer. C'est-à-dire que tu dois le croire à 10 000 %. Et s'il te dit que ça, c'est la couleur, c'est noir alors que c'est blanc, bah tu dois le croire. En fait, c'est ça. Il doit te rendre meilleur. Il doit te galvaniser, te bien surpasser sûr. Et tirer encore plus que ce que tu n'es vraiment capable de donner.
C'est la majorité ou c'est plutôt rare?
C'est plutôt rare, mais aujourd'hui, j'ai tendance à croire qu'on développe plus l'aspect psychologique des entraîneurs. Ouais. Voilà, et c'est, on va dans le bon sens, je pense, au niveau du coaching.
Avant, c'était la psychologie à la papa, ouais.
Et surtout, dans le conflit.
Pardon, je n'ai pas voulu dire Asbin ou Kaukes. Non, parce qu'il y a un autre rapport, je pense.
Je ne me sens pas concerné. J'ai plaisanté quand je disais que j'étais Asbin. Vous allez voir d'ici quelques semaines que j'ai repris mon bâton de pèlerin.
Voilà.
Il va y avoir une nouvelle. Une
en Afrique ou ailleurs?
En Afrique.
Très bien. Plutôt Afrique de l'Est, Afrique du Nord.
A priori, ça sera vraiment dans le Sud.
Afrique australe.
Très bien. Bon, bah pourquoi pas. En tout cas, merci d'être venu, Pierre.
C'est avec plaisir.
Sympa.
Merci, coach.
Et puis on suit ça avec intérêt. On verra la prochaine
un prono quand même pour dimanche.
Ah oui, un prono au Nigeria.
Nigeria?
Nigeria-Tunisie
en finale.
Nigeria-vainqueur
de la demi-finale.
Ah oui.
Ce serait une sacrée surprise quand même, vu le premier tour qu'ils ont fait, là, ce serait étonnant.
Ah oui, parce que. Un peu
capable du meilleur comme du pire, non?
Oui, mais quand ils font le meilleur, ils sont assez performants. Hein.
D'ailleurs, il faudra aussi qu'on ait Garlotre à jour, parce que. C'est vrai que Garlotre au Nigeria, quand il y est arrivé là-bas, on s'est dit, tiens. Étonnant, et puis au final...
Il a pas mal roulé sa bosse aussi, Garlotte, ouais. Hein, mais il est arrivé bizarrement au Nigeria.
Mais c'est un pays où on fait pas trop appel à des francophones.
Non, c'est vrai.
Bon, on va me dire, il est aussi germanophone. Mais bon.
Garlotte, il s'adapte à tout.
Voilà, on l'a vu en l'occurrence, il est pas mal. Merci en tout cas d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Toujours. À très bientôt sur RMC. Nous, on va reparler du Mercato et de Lyon dans quelques instants avec Jean-Michel Aulas qui parle de Fekir, qui parle d'Aouar, qui parle d'un peu tout le monde et du PSG, parce qu'il faut toujours qu'il glisse un petit truc sur le PSG ou l'OM, c'est selon. Là, c'est le PSG. Vous allez voir ça dans quelques instants.
RMC, l'Afterfoot.
The new Vauxhall Combo Cargo delivers for the heavy lifters with its payload of up to a ton, for the fuel savers with its highly efficient engines, and it delivers awards, including International Van of the Year 2019. New Combo Cargo carries British business from 168 a month with 6 years 0% APR. Vauxhall, British brand since 1903. Conditional sale, minimum 18% deposit plus VAT at 20% on total price. Financed by Vauxhall Finance, subject to status. 18 plus, small business users only. T's and C's apply. Search combo offer.